J'espère pour toutes les personnes qui nous rendent visite que vous êtes bien jusqu'ici. Soyez les bienvenus, soyez à l'aise. Nous avons chanté le Seigneur. Maintenant, on va ouvrir sa parole à un autre endroit. On a parcouru des psaumes, un psaume en particulier qui parle de son amour qui n'a pas de fin. Aujourd'hui, je vais commencer une série de prédications dans un livre du Nouveau Testament pour lequel je dois avouer que très souvent, je saute ce livre. Soit il est placé d'une manière tellement secrète que je ne tombe pas dessus, que ce livre ne fasse pas partie de mes livres préférés ou de référence ou qu'est-ce que j'en sais. Donc je me suis dit, je vais regarder de près les passages dans la Bible que j'ai pas l'habitude de lire. Comme chacun peut avoir d'un livre de préférence, un texte de préférence, un verset de préférence. Donc je me suis dit, tiens, je vais ouvrir ce livre qui est l'Épître aux Thessaloniciens. Et il y a donc une série de prédications à travers ce livre qui va à la fois parler comment vivre sa foi au quotidien, surtout quand cette foi est jeune ou doit se renouveler tous les jours parce que cette foi traverse des crises, des adversités et surtout, qu'est-ce qu'est cette attitude d'attendre à ce que Jésus-Christ revient nous prendre avec lui tel qu'il a promis. Donc, aujourd'hui, première épître aux Thessaloniciens et le thème pour ce premier chapitre que nous allons découvrir ensemble, c'est notre témoignage. C'est une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Notre témoignage, une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Peut-être tu dis, chez moi, c'est pas le cas. Déjà, je n'ose pas trop parler de ma foi. Donc, un vrai témoignage, j'en ai pas. J'espère peut-être que les gens me découvrent chrétien parce que je vis, mais ils vont probablement pas découvrir chrétien que je suis parce que j'en parle pas. Je n'ose pas en parler. Je me crois pas digne d'en parler. Et une démonstration de la puissance, ma vie, ma façon d'être chrétien, si c'est une puissance, mais c'est une toute petite présence, plutôt que puissance. Cette chapitre, épître, comme d'ailleurs le deuxième que l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, se trouve, malgré que ça se trouve assez loin dans le Nouveau Testament, est finalement un des premiers livres qui était écrit dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui écrit ce livre autour des années 51 et 52. D'ailleurs, c'est cette année où les disciples, où les apôtres commencent à écrire. 50, 51, 52 après Jésus-Christ, nous trouvons des premiers épîtres et des évangiles, c'est l'évangile selon Marc, que Pierre fait dicter à son disciple Marc, le premier. Donc nous trouvons là, juste au début de ce que les chrétiens reçoivent comme lettre des apôtres, pour leur jeune vie d'église. En lisant le livre des Actes des apôtres, c'est dans le chapitre 17 que c'est l'apôtre Paul avec son équipe d'évangélistes qui passe un court séjour dans cette ville qui est la capitale de la Macédoine. À l'époque, cette ville compte déjà 200 000 habitants. C'est un peu comme Bordeaux, hein. Et c'est une des plus grandes villes de l'Empire romain au 1er siècle. Et aujourd'hui, cette ville existe toujours, sauf elle porte un autre nom. Son nom aujourd'hui, c'est Salonique, en Grèce. Les paroles avec lesquelles l'apôtre s'adresse à cette toute jeune église sont pleines de reconnaissance et pleines d'affection. J'ai complètement oublié que cette lettre contient des paroles tellement chargées de reconnaissance et d'affection, écrites à une église qui est jeune et qui est fidèle. Mais, si elle est fidèle et jeûne, elle est en plein lutte. Ce ne sont pas des luttes internes à l'Église, mais ce sont les adversités qui la menacent de l'extérieur. Donc les paroles de cette première lettre cherchent à encourager les croyants qui souffrent des persécutions à cause de leur foi. Imaginez, vous venez juste devenir chrétien parce que vous avez aimé Jésus, vous l'avez trouvé, vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur, et bam, deuxième réaction tout de suite, on vous gifle, on vous calomnie, on voudrait plus avoir de relation avec vous, on vous menace. Waouh, quel départ! Jeune chrétien est déjà persécuté. Et les paroles de cette première lettre de l'apôtre Paul cherchent à les encourager à tenir ferme au milieu des persécutions qui les traversent et de les consoler. Pourquoi les consoler? Parce qu'on attendait à ce que le retour du Seigneur ne se fait pas tarder. Les premiers chrétiens avaient un message qui disait « Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il va revenir de notre vivant. » Il attendait Jésus prochainement, très prochainement. Et malheur, certaines personnes qui ont trouvé la foi en Jésus meurent. Et Jésus-Christ est, il n'est toujours pas revenu. Qu'est-ce que je fais avec cette promesse que Jésus revient? Mais plus que je l'attends, il se fait attendre. Imaginez ce choc quand vous promet que c'est dans peu de temps qu'on sera tous avec le Seigneur. Et brusquement, tu dois traverser au lieu de la gloire dans l'éternité la persécution et la misère. Et ton existence de chrétien, il faut s'installer dans le temps. Quand le Seigneur va revenir? Quand? Jusqu'à quand alors? Et encore. Donc le retour de la venue personnelle, l'avènement du Christ, qu'on dit aussi dans la Bible, il s'impose comme un thème majeur dans ces deux premières épîtres aux Thessaloniciens. Et malgré que Jésus se fait attendre, la venue personnelle, l'avènement du Christ est proche. D'ailleurs, rappelez-vous le premier message du prophète Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit? Changez de vie parce que le royaume de Dieu est proche. C'est le même message que Jésus a repris, que les apôtres ont repris. Mais qu'est-ce qui est proche? Est-ce qu'il y a un temps qui est proche, plus proche? Est-ce qu'il y a un proche qui est plus long à attendre? Qu'est-ce qui est proche? Voici donc le premier chapitre que je vous propose à lire ensemble. Et nos amis qui viennent là pour la première fois à l'église, nous avons l'habitude de lire le texte biblique ensemble. Et il y a trois slides. Et si quelqu'un voudrait se lever et lire le premier à haute voix, ainsi nous pouvons tous lire et suivre cette parole de Dieu. Qui va commencer à nous lire ce premier tableau?
De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père.
Merci. Quelqu'un d'autre prend la suite?
Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qui vous a choisis parce que notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit.
Une dernière.
Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi parce que votre foi en Dieu s'est faite connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir.
Merci pour cette lecture. Encore une fois, notre témoignage, c'est une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens à Thessalonique connaissaient très très bien ceux qui signaient ou co-signaient cette lettre et qui sont mentionnés dans les salutations. Sylvain, appelé aussi Silas, et Timothée. C'était des compagnons de l'apôtre Paul pendant plusieurs voyages missionnaires et tous les deux ont activement et puissamment participé à la formation de cette église à Thessalonique. Leur énergie, l'énergie de Silas et de Timothée, leur énergie au service de Dieu dans cette ville avait été si grande qu'on les avait accusés de bouleverser la terre habitée. Et quand j'ai dit ça, je me disais, et la puissance de mon témoignage, ça bouleverse qui? Ça fait bouger quoi? Parce que si je parle de ma foi en Jésus, j'aime bien que d'autres personnes puissent être touchées. Ton témoignage à toi, le témoignage de ta foi, ça bouleverse aussi l'un ou l'autre qui te connaît? Ou est-ce que ta façon d'être chrétien laisse complètement indifférent parce qu'il n'y a pas trop de différence par rapport à d'autres qui croient en d'autres choses vives? Son témoignage, leur témoignage a bouleversé la terre habitée. Quel hommage! Quel hommage à la puissance de l'Évangile! Je me suis tout de suite à prier quand j'ai lu ça. Seigneur, augmente la puissance de mon témoignage. Seigneur, augmente la puissance de mon témoignage. Après les salutations faites, à partir du verset 5, nous découvrons le triple caractère de la prédication de l'Évangile. Des Grecs, très cultivés, estimaient beaucoup l'éloquence et la connaissance. L'éloquence et la connaissance. Mais ceux qui sont devenus chrétiens étaient attirés à l'Évangile par l'élégance du discours, d'une rhétorique forte qui a porté l'Évangile de la bouche des apôtres. La bonne nouvelle, l'Évangile que Paul et ses compagnons prêchaient avait été si efficace qu'il était accompagné de trois éléments essentiels. La première, c'était une grande puissance. Il faut ajouter de persuasion. Comme toute la conduite de Paul, de Silas et de Timothée était conforme à ce qu'ils annonçaient, leur parole avait une forte persuasion. Peut-être vous connaissez ce dicton « Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. » Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est là où on dit pas conforme, pas cohérent les chrétiens qui ont un discours tel, qui s'orientent à l'Évangile, mais leur façon de vivre est une toute autre. Et il est tout à fait juste et honnête, que certaines personnes se grattent la tête en disant « Je comprends pas les chrétiens. Ils disent une chose et vivent l'autre. » Ça t'arrive aussi, parfois? Combien de fois ça m'arrive? J'ai horreur de ces moments. Parce que je découvre à quel point je ne suis pas cohérent. Mais quand je dis et je vis autre chose, Je ne donne pas honneur à mon Seigneur. Ça retombe à la fois sur moi, et à juste titre, et ça retombe aussi sur le Seigneur. Parce que mon témoignage est mauvais. Quand j'ai dit une chose, mais j'ai fait l'autre. Nos actes n'ont-ils pas plus d'impact que toutes nos paroles? François Assis, c'était un homme d'église qui avait à cœur l'évangélisation. Et vous savez ce qu'il a dit à des disciples qu'il a formés pour l'évangélisation et pour la mission? Annoncez l'évangile. Et si c'est nécessaire, usez de parole. Ok, c'est 11h30. Encore une fois. Annoncez l'évangile. Et si c'est nécessaire, usez de parole. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est notre vie de chrétien qui convainc. C'est notre vie de chrétien qui parle plus qu'on pourrait dire. Mais on va y revenir un peu plus tard. La prédication de l'évangile est une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Ce sont pas simplement les paroles qui cherchent à convaincre. C'est une personne qui va convaincre. C'est la puissance d'une personne qui est en Dieu, le Saint-Esprit, qui a une démonstration, qui va développer une démonstration de puissance. L'évangile est la puissance de Dieu même. Ne sous-estimez pas la parole de Dieu, parce que ceux qui l'entendent voient leur vie bouleversée, changée, trouver une autre orientation. L'évangile est la puissance de Dieu lui-même pour le salut, dit l'apôtre Paul, pour toute personne qui y croit ou qui voudrait y mettre sa confiance. Une puissance communiquée par le Saint-Esprit. Vous trouvez cela? Romains chapitre 1, verset 16. C'est ma prière. Seigneur, les paroles que je trouve moi pour dire ma foi, aussi bien que je sais dire ma foi, que ces paroles soient portées par ta personne. Non pas seulement dans les oreilles, mais dans le cœur et dans l'âme de la personne qui l'écoute. Et Seigneur, développe une puissance. Parce que qui suis-je? Qu'est-ce qui vaut ma parole? Rien. Mon témoignage n'a aucune valeur ni puissance si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'accompagne. Une des missions du Saint-Esprit est de convaincre, c'est-à-dire de faire une démonstration en produisant des preuves. Parle toujours, grand causeur que tu es. Est-ce que tu pourrais nous montrer une chose, peut-être une chose me suffirait, une démonstration de ce qui a vraiment changé dans ta vie? Ta confiance que tu as mis en Jésus, ça marche? Et si ça marche comment chez toi? Notre vie et notre témoignage a besoin de preuves. Tout le monde peut causer. Mais si le Saint-Esprit accompagne ton témoignage des preuves, et la meilleure preuve et la première preuve qu'une personne rencontre, c'est toi. Là, tu peux être sûr que le Saint-Esprit est en train de convaincre une personne. Le Saint-Esprit de Dieu a la puissance de convaincre les hommes, les femmes, les jeunes en ce qui concerne le péché et le mal qui les habite. Et puis, qu'il y a une justice juste qui va condamner le péché, mais qui a le but, par le cœur du Père, de sauver celui qui, naturellement, sans connaître Jésus, sans faire attention à ton témoignage, ni y croire, risque de se perdre pour toujours. Tu t'imagines? Ton témoignage pouvait sauver une personne. Ton témoignage, ta façon de parler et de vivre ta foi pouvait sauver des personnes pour toujours. Avec cette même force, l'Esprit Saint de Dieu donne à ceux qui donnent ce témoignage une ferme assurance. Jeunes chrétiens qu'ils étaient, ils étaient déjà sûrs de ce qu'ils croyaient était vraiment vrai. Ils avaient une ferme assurance dans la manière dans laquelle ils ont annoncé leur foi. Ils avaient une pleine certitude. Et bien sûr, si quelqu'un parle d'une manière ferme et convaincue, il a une autorité. Sa parole fait autorité. Parce que son témoignage n'est pas vague ou incertain, construit des conditionnels de peur qu'on pouvait nous accuser des certitudes. J'ai l'impression parfois qu'il est interdit d'avoir des certitudes. Dieu devait être une nébuleuse. Jésus avec un point d'interrogation. Qui sait ? Moi je sais. Oui, dites-moi, arrogant. Moi, je sais. Combien de fois les gens me disent, mais Olaf, tu parles de ta foi comme si c'était vrai. Déjà, cette phrase m'étonne, moi, le premier. Si je devrais te raconter des conneries, tu serais plus assuré. J'ai cette ferme conviction et cette certitude parce que je connais des preuves. Et s'il n'y avait pas une preuve dans ma foi, si la foi n'avait pas transformer ma vie, j'en parlerai même pas. C'est pas la peine. C'est peut-être pas la peine pour vous, parce que rien ne s'est transformé. C'est peut-être là la raison de l'un ou de l'autre de dire qu'est-ce que j'aurais à raconter, je dois chercher déjà, qu'est-ce qui a changé dans ma vie. La dernière fois que tu m'as parlé, oh, j'ai mauvaise mémoire, mais j'en rappelle plus. Mais la ferme. Ne continue pas à parler. Parce que tu n'as rien à raconter. Parce que tu ne connais pas la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Ce n'est pas la peine d'en parler. Par contre, si tu la connais, tu veux en parler. Tu es poussé par le Saint-Esprit. Ça veut sortir. Tu aurais peut-être même du mal à retenir une parole qui voudrait à tout prix sortir pour toucher une personne. Si le Saint-Esprit habite en nous, notre témoignage est ferme, assuré, dit avec certitude et avec autorité. Revêtu donc de l'assurance, de certitude et d'autorité, Paul, Silas et Timothée n'avaient apporté aucune note incertaine à leur prédication. Ils ont parlé droit au cœur. Un franc-parler, une parole qui cherche son chemin. Chaque fois que je parle, je prêche, je prie à ce que cette parole puisse aller droit au cœur de ceux qui sont devant moi. Je suis avec une personne la semaine dernière pour un collègue qui est en retraite, un pasteur à Niort. Il a un camping-car et il a cherché un groupe électrogène. On a fait ça, hein, voilà. Et il a trouvé une occasion et il m'a téléphoné en disant « Olaf, est-ce que tu pourrais passer chez ce monsieur-là et moi, je passerai la semaine prochaine en direction vers la Bretagne et je vais récupérer la petite machine. » Donc, je suis allé, c'était au rond-point de Rennes, et je rencontre un monsieur qui était très étonné que je me présentais pasteur. Il disait « Tiens, les pasteurs, ça devrait exister qu'aux États-Unis. » Encore une personne très cultivée. Mais je me suis dit, personne ne lui a parlé des évangéliques. Personne des protestants. Est-ce que cette personne n'avait jamais eu la chance de rencontrer un chrétien? Pauvre type. Mais bien sûr, il ne sait rien. Parce que personne ne lui a pas en parlé. Donc je suis sauté sur la situation. Et il disait finalement, vous touchez là un point sensible dans mon cœur. Et je dis, détrempez-vous, c'est pas moi, c'est plus haut, ça vient de plus haut. Donc je lui proposais à venir pour boire une bonne bière, et je lui parlerai davantage de l'évangile. Cette autorité était autant plus nécessaire qu'il parlait des questions fondamentales. Touchant à la fois à la vie et à la mort. Non, nous ne faisons pas de la conversation quand nous parlons de Jésus. Nous parlons des choses concrètes. ayant un but. Le message, nous sommes en mission. J'ouvre ma bouche et Dieu me met en mission. Bien sûr, on va parler de la famille, des enfants, du beau temps, du travail. Mais ça, c'est uniquement un petit tapis rouge qui prépare le chemin pour l'essentiel. Des questions fondamentales. J'ai droit à ce monsieur, vous ne connaissez pas dans votre cœur un grand vide que rien n'arrive à remplir et vous laisse constamment sur la faim? Il dit, comment vous le savez? Je dis, tout le monde a ça. Tout le monde. C'est cette partie que nous avons perdue en délaissant notre Dieu. Étant donné que cette place est vide, ça crée un vide. Une vide, c'est toujours désagréable, toujours. Ça nous met en recherche. Paf, question essentielle. Message essentiel. La conversation, c'est uniquement pour dire bonjour. Le reste, c'est mon témoignage que je voudrais donner. En parlant d'une manière floue et vague, nous ne communiquons aux autres que nos propres doutes. Un témoignage de notre foi flou et vague n'engage que de la confusion, des excuses, voire du refus de ceux qui nous écoutent. Franchement, moi, je ne voudrais pas suivre quelqu'un qui n'est pas sûr de son truc. Hein. S'il n'est pas convaincu que lui, qu'il ait trouvé la juste chose, pourquoi je devrais le suivre? De temps en autre, j'ai l'occasion de rencontrer des élus. Dernièrement, à une cérémonie, il disait « Ah, monsieur le pasteur !» Je dis « Monsieur l'élu !» Bon, je connais aussi son nom, mais vu qu'il est formel, je le taquine un peu. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai demandé à un élu « Donnez-moi une simple raison pour laquelle je devrais mettre ma croix chez vous la prochaine fois quand il sera une élection. » Donnez-moi une bonne raison pour la municipale. En européen que je suis, je peux quand même participer à la municipale. Ou à l'européenne. Pas pour élire un président, ça serait trop dangereux. Et je m'attendais à ce qu'il commence à me parler d'une manière enthousiaste, de son truc, de son programme. Il y avait un silence. Peut-être courte, mais pour moi c'était trop longue. Je comptais intérieurement. 1, 2, 3. Vous savez, monsieur le pasteur, je dis, c'est le mauvais commencement. Si tu es convaincu de ton truc, tu vas le sortir tout de suite. Tu pouvais le formuler. Tu trouveras des mots. Tu ne dois pas construire déjà pour toi-même. Comment je vais le dire? Tu as envie de le dire. Donc, ne parlons pas d'une manière vague ou incertaine. Après le triple caractère de la prédication, voici le triple effet de la conversion. Versets 6 à 8. Ces premiers chrétiens deviennent des imitateurs. Des imitateurs. Vous savez qu'est-ce que fait une personne qui imite une autre? Qu'est-ce que fait une personne qui va imiter une autre? Faire la même chose, lui ressembler, une coupée-collée, si vous voulez. Une coupée-collée. Paul n'est pas prétentieux en affirmant que les Thessaloniciens étaient devenus ses imitateurs. Ses imitateurs. Et après, il ajoute, et je dirais, ouf, encore bienvenue là au juste endroit. Et vous êtes imitateur ou vous êtes devenu imitateur du Christ. Mais c'est quand même gonflé et blasé de dire vous êtes devenu mes imitateurs et après vous êtes devenu imitateur du Christ. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop fort? Moi d'abord et après le Christ? Mon témoignage est mieux que le Seigneur? Les amis, détrempez-vous. Ça se passe toujours comme ça. Avant de connaître davantage Jésus, ceux qui sont devenus chrétiens cherchent dans ta propre vie comment tu la vis. Ils vont essayer de faire comme toi. Ils ne sauront pas prier. Ils vont t'écouter. Amen. Amen, on sait, c'est la fin de la prière. Ah, petit à petit, ils vont arriver à formuler leurs propres paroles. Parce qu'ils commencent à t'imiter. Ta façon de lire la Bible. Ils vont commencer à imiter ta façon de lire la Bible. Tu es le premier témoin qui leur apprend à vivre en tant que chrétien. Donc, quand l'apôtre Paul, vous êtes devenu mes imitateurs, c'est tout à fait normal. Je cherche d'abord à apprendre de celui qui m'a appris à aimer le Seigneur. Mais Paul décrit là cette vraie réalité. C'est à travers notre propre personne que d'autres personnes seront encouragées à faire comme nous. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ, dit l'apôtre Paul au 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, chapitre 11, verset 1, Philippiens 3, verset 17. Soyez mes imitateurs, comme moi, je suis imitateur du Christ. Au 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 33, il dit, faites comme moi. Ça vous dit quelque chose? C'est le contraire de... Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est tout de suite direct. Vous voulez savoir comment vit un chrétien? Mais faites comme moi. Tu oserais dire ça à quelqu'un? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi tu n'as pas de disciples? Pourquoi tu n'as pas le courage de dire, écoute, suis-moi, je vais te montrer comment j'ai trouvé les chemins. Comment j'ai connu davantage Jésus? Pourquoi tu n'oses pas? Les amis, c'est une fausse humilité. C'est toi qui les prends à la main. C'est toi qui les emmène à l'église. C'est toi qui leur apprends à prier. C'est toi qui leur apprends à aimer Jésus davantage. C'est le rôle du témoin. C'est le rôle de votre témoignage. Nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Écrit-il aux Thessaloniciens dans sa deuxième lettre. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes des enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour et suivez l'exemple du Christ. Vous voyez, petit à petit, celui qui est le témoin, il s'efface. Et le Christ devient de plus en plus important pour celui qui croit. Et à la fin, le témoin a été là pour un certain temps et la relation est entièrement établie avec le Seigneur et l'enfant de Dieu. Fais à ton tour ce que tu m'as vu faire. Fais à ton tour ce que tu m'as vu faire. C'est une superbe phrase, je trouve. Quand j'ai lu ces phrases-là, je me disais, je souhaite que ce soit mon héritage que je vous laisserai. L'héritage d'Imke et moi, qu'on vous laissera. Vous voulez savoir comment continuer l'Église? Faites comme nous l'avons fait. C'est pas prétentieux. Je sais, j'essaye d'être un modèle. Je n'arrive pas toujours. Mais quand même, est-ce que tu es aussi un modèle? Est-ce que tu vas oser d'être un modèle? C'est d'abord que Christ doit te façonner afin que d'autres personnes puissent être encouragées, avoir envie à faire comme toi. Paul suivait et imitait le Seigneur. Les premiers chrétiens à Thessalonique imitaient Paul et puis imitaient le Seigneur. Le parfait modèle. En regardant vivre une personne devenue chrétienne, le monde devrait pouvoir discerner et découvrir Jésus-Christ. Tu es le premier évangile que les gens lisent. Avant qu'ils ouvrent la Bible, si toutefois ils ouvrent une Bible, ils lisent déjà longuement dans ta vie. Qu'est-ce que tu leur racontes par ta façon de vivre? Et qu'est-ce que tu leur racontes dès que tu ouvres la bouche? Des imitateurs deviennent, donc devenir imitateurs, devenir des modèles. Des imitateurs deviennent alors modèles à leur tour. La chaîne des témoins de Jésus-Christ s'allonge. Devenus imitateurs de Paul et du Seigneur, les Thessaloniciens sont à leur tour devenus des modèles pour d'autres personnes qui commencent à croire en Jésus. Ça a commencé dans la ville, puis dans la région, puis dans toute la Grèce entière. On ne parlait que de cette église. Avant de parler du Seigneur, on parlait de cette église. Pourquoi ? Parce que le Seigneur était reflété, était témoigné par cette église. Le cercle s'agrandit, atteint finalement tout le monde civilisé. Le fait que vous soyez là, que moi nous sommes là, que l'église existe dans le monde entier, c'est grâce, entre autres, à cette église-là. Ça fait des vagues. Les premières églises ont fait des vagues. Les premiers chrétiens ont effectivement bouleversé le monde entier. Parce que leur témoignage était puissant. Si quelqu'un a goûté aux eaux de la grâce divine, dit la Bible, les fleuves d'eau vive se répandent tout autour de lui. Ça n'arrête pas de couler. Jean chapitre 7, les versets 37 et 38. Mais comment les Thessaloniciens étaient-ils devenus des modèles? Ils sont devenus des modèles de la foi en Jésus par leur joie, dans les persécutions subies. Wow. La joie, franchement, je voudrais avoir. Les persécutions, je m'en passe, si possible. D'ailleurs, comme toute autre difficulté dans la vie. Mais avoir de la joie dans les difficultés. Wow. Quel est leur secret? On fait tous mauvaise mine, hein? Dès que les choses deviennent dures, quand les temps sont difficiles, trouver sa joie dans le Seigneur, dans les difficultés qu'on doit subir. Franchement, ça c'est un témoignage. Ça c'est une belle démonstration de puissance du Saint-Esprit. Ils sont devenus des héros. J'aime la langue française, parfois je la maîtrise. Des héros et des héros. Vous voyez, hein, pigé? Et l'évangile, oh, qu'est-ce que j'étais fier quand j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que fait un héros? Il parle hautement, il annonce partout afin que le message soit connu. Et c'est exactement ce qui dérange le diable. C'est exactement ça que le diable va combattre. Il déteste une église qui a un témoignage. Il déteste les chrétiens qui ont un témoignage puissant. Il ne se fait pas de soucis des chrétiens qui n'en parlent pas de leur foi. Ce n'est pas dangereux. Mais les chrétiens qui ont un témoignage, ils risquent d'infecter d'autres. Le diable, il va en perdre de ses adeptes, plus que l'évangile est répandu dans le monde. Et c'est sans étonnement, sans tarder, Satan a cherché à nuire à la prédication de l'évangile en persécutant les premiers chrétiens après le départ de Paul. Mais il s'est bien trompé celui que la Bible appelle le malin. Il s'est bien trompé le malin. Ainsi, encore aujourd'hui, Satan ne peut pas s'opposer à l'œuvre de Dieu. Si les croyants marchent dans la puissance du Saint-Esprit et qu'ils marchent dans leur foi, et avec joie. que témoigner cette foi. L'ennemi peut réduire un croyant, il peut te réduire à une faiblesse même extrême par l'épreuve que tu dois subir, traverser. Mais il ne peut pas t'empêcher à croire, il ne peut pas empêcher de témoigner. Ça, il ne peut pas faire. Il peut te charger au max des choses difficiles, mais il ne peut pas t'empêcher de croire et de témoigner. Dès leur conversion, les Thessaloniciens annoncent à leur tour la parole comme des héros de l'Évangile dans toute la région. Leur prédication est si puissante qu'elle sonne comme une trompette à travers tout le pays, au-delà même des frontières. Il ne peut que constater, l'apôtre Paul, que leur conversion était remarquable. Remarquable. Et leur concitoyens pouvaient constater que la même chose. Il y avait une grande puissance qui est passée par leur vie. Leur conversion avait une grande puissance. Après le triple caractère de la prédication de l'Évangile et le triple effet de la conversion chez les Thessaloniciens, voici le triple témoignage à leur conversion. Le monde constate souvent chez les chrétiens la présence et l'existence d'une puissance qu'ils ne connaissent pas. C'est complètement étrangère à ce qu'ils connaissent. Certaines personnes parlent même avec étonnement du témoignage puissant des chrétiens. Ça inspire le respect. D'ailleurs, ta façon de vivre ta vie chrétienne inspire un quiconque respect à quiconque. Certaines personnes me disent, mais qu'est-ce qui est ton truc? J'ai dit, tu me donnes 2 minutes et tu le sauras. Je voudrais que les gens soient plutôt frileux à savoir qu'est-ce qui est mon secret. En Macédoine et au-delà, verset 8, même les païens ajoutaient leur propre témoignage à la conversion si remarquable de leurs concitoyens. Pourquoi cette transformation si radicale marquait-elle les esprits des païens? Parce que c'était radical. Et uniquement ce qui est radical inspire du respect. Uniquement ce qui est vrai et radical et militant pose des questions aux autres. Parce que les Thessaloniciens avaient reçu la parole comme inspirée de Dieu et non venant des hommes, cette parole s'est pu transformer en puissance du Saint-Esprit. Ils étaient convertis, non pour suivre un homme, comme Paul, Silas ou Timothée, ou de tirer un quiconque profit matériel parce qu'ils sont devenus chrétiens. Ils se sont convertis pour mieux connaître Dieu, leur sauveur. Ils se sont détournés de leurs anciens idoles et ils se tournaient vers Dieu. Ils se sont détournés de leur ancienne manière de vivre et ils sont détournés pour suivre Jésus. Combien de personnes se convertissent sans se détourner de leur ancienne vie? Ou vaguement, mon ancienne vie, je m'en détourne. Mais vous voyez, il reste beaucoup d'affaires pour vraiment changer d'orientation. Est-ce que tu t'es vraiment détourné de ta ancienne manière de vivre? Ou est-ce qu'elle fait toujours partie de ta vie comme une composante régulière? Tu as fait vraiment un changement d'orientation dans ta vie? Tu as délaissé ce qui était ta ancienne manière de vivre? Tu ne le fais plus parce que tu n'en veux plus? Voudrais découvrir des choses nouvelles, celles qui te feront vivre chrétien. Les dieux des païens étaient faits à l'image des hommes, des dieux de passion, pas de conscience. Les Grecs avaient imaginé un dieu pour chaque besoin, pour chaque activité humaine, ils avaient un dieu pour l'amour, un dieu pour la chasse, un dieu pour le commerce, et qu'est-ce que j'en sais encore? Et permettez-moi, j'ouvre une petite parenthèse qui n'est pas gentille, mais un peu à l'image des saints et des saintes à l'Église catholique. À chacun sa spécialité. Des dieux habitant le mont de l'île Olympe, une montagne inaccessible, les Thessaloniciens n'avaient pas abandonné leur idole pour une autre religion pour changer de montagne. Non. Ils sont tournés vers le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai, accessible et connaissable en tant que Père. Et un tel changement ne peut recevoir d'explication naturelle. Ça, c'est poussé par le Saint-Esprit. Un tel changement, ça, c'est l'œuvre de Dieu produite dans les cœurs et dans les consciences de chacun qui croit désormais en lui. Dans la pensée grecque, le monde était un perpétuel recommencement. L'histoire en général et la vie en particulier suivaient toujours un rythme cyclique. L'Évangile rompt avec cette conception du monde. Et il donne un sens à la vie, une vraie direction, un vrai but qui trouve son accomplissement dans la promesse que Jésus-Christ va bientôt revenir. Je change ma vie parce que je voudrais partir avec lui. Quand lui viendra, moi je voudrais être prêt et partir avec lui. Et puis, le témoignage était aussi qu'il commençait à servir Dieu. Il servait Dieu, le Dieu vivant et vrai, et il servait Dieu dans l'image comme un esclave sert son maître, avec soumission et totalité. Servir à celui qui est, servir à ceci de remarquable chez les chrétiens qui servent Dieu volontairement par amour et non par contrainte ou par devoir. Et puis, ils attendaient la venue de Jésus. Les Grecs témoignaient de la conversion des Thessaloniciens, mais attestaient aussi que les croyants attendaient la venue de Jésus. Normalement, ça se fait uniquement à l'interne à l'Église. Comment ça se fait que tous les mondes savaient que les chrétiens attendaient la venue de Jésus? C'est écrit là, j'attends Jésus, retour bientôt, partir immédiate. Non? Ça faisait partie de leur témoignage. Si tu voudrais savoir pourquoi ma vie a changé, c'est parce que j'attends quelqu'un avec lequel j'ai rendez-vous. Qui va me donner rendez-vous? Quand quelqu'un attend une autre personne, toute son attitude le montre. Toute son attitude est entièrement tournée vers ce rencontre, vers ce rendez-vous, vers la personne que l'entend. La venue personnelle de Jésus-Christ pour chercher l'Église est immédiate. Est immédiate. Ceux qui nous entourent peuvent-ils constater que nous attendons pour l'immédiate, très prochainement, le retour de Jésus? Ou est-ce qu'ils devraient plutôt avoir l'impression que les chrétiens se sont installés confortablement dans leur vie, comme si le Christ ne revenait pas? Ça aussi peut exister. Est-ce que les gens nous posent des questions à ce sujet-là? Comme l'apôtre Pierre dit, soyez toujours prêts à défendre votre foi avec l'espérance qui vous habite. Et si quelqu'un vous demande raison, donc expliquez-leur qu'est-ce qui fait votre foi. L'avènement de Jésus, sa venue, c'est le prochain grand événement que Dieu a prévu dans son plan. L'avènement de Jésus, le retour de Jésus, c'est ce que Dieu a marqué en plus grand dans son calendrier, dans son agenda. En conclusion, ton témoignage, le témoignage de ta foi en Jésus, tout simple qu'il soit, a une grande importance. Tu le crois? J'espère, après cette prédication, tu le crois. Et tu le crois davantage. Raconte aux autres ce que tu as vécu avec Jésus. Raconte comment tu es devenu chrétien. Raconte autour de toi comment l'action de Dieu dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, a commencé à transformer petit à petit ta propre vie. Comment la relation et la confiance en Dieu t'aident à traverser même des temps difficiles. Raconte cela. Raconte autour de toi comment la joie et la paix sont rentrés dans ta vie depuis que tu marches avec Jésus. Et je te promets, tu seras étonné de pouvoir assister à l'œuvre du Saint-Esprit qui commence à s'opérer dans les cœurs et dans les consciences de ceux qui t'écoutent. Parce que Dieu voudrait que tu sois son témoin. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta venue dans ce monde qui a apporté à ce monde l'ultime réponse à la perdition et au péché. Que tu as voulu prendre sur toi-même, sur la croix, et ainsi tu as ouvert le chemin vers le retour, vers le Père. Je te remercie, Seigneur, pour ta venue dans ma propre vie. Seigneur, je ne regrette pas ce moment-là, au contraire. Seigneur, rends le témoignage de ma propre vie puissant. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui donne envie aux autres de m'imiter. Et puis, te connaître davantage. J'ai pris ça pour chacun de nous et pour notre Église. Et, Seigneur, prépare nos cœurs pour ta venue qui est immédiate. Seigneur, tu connais seul l'heure et le moment. Mais quand ce temps arrivera, Seigneur, et quand on sera encore vivant, nous voulons nous dire prêts. Oui, Seigneur, tu peux venir. Nous sommes prêts. Amen. On passe...